Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Objet d'un conflit social exceptionnellement long, la réforme des retraites promise par Emmanuel Macron est présentée depuis ce matin au Conseil des ministres, soit le jour choisi par les opposants au projet de loi pour une 7e journée de grève et de manifestation. Pas de quoi faire vaciller l'exécutif donc qui s'en tient lui à son calendrier. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Denis Gravouille, chef opérateur secrétaire général de la CGT Spectacle.
Après avoir déjà annoncé l'annulation de très populaires festivités prévues pour le début de l'année, la Chine a décidé ce matin de fermer plusieurs sections de la Grande Muraille.
Et l'objectif reste toujours le même, contrôler au mieux la propagation du coronavirus qui a déjà tué 26 personnes. Un simple haussement d'épaule, voilà à peu près la réaction palestinienne après les déclarations hier du président américain. Donald Trump prévoit d'annoncer d'ici mardi son projet de paix pour le Proche-Orient, un plan déjà jugé mort-né dans les territoires palestiniens. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Pour penser les remèdes, il faut comprendre le malaise. Il s'y emploie dans un livre qui paraît chez Gallimard dans la collection Tract, L'hôpital, une nouvelle industrie. C'est avec nous le neurochirurgien Monsieur Velut qui sera avec nous pour évoquer, Stéphane Velut, cette question, le langage comme symptôme. Il va tenter de mettre des mots sur le malaise actuel dans l'hôpital public.
Merci et à tout à l'heure. S'il devait y avoir un avantage au vrai faux moi sans alcool, c'est sans doute de pouvoir encore choisir entre le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et à ce titre, l'examen de la réforme des retraites n'échappe pas à la règle. Alors s'agissant de la première option, parce qu'il aura su tenir debout malgré les effluves dans la rue, de cagettes brûlées et autres fumigènes, le gouvernement aura certainement toutes les raisons de trinquer aujourd'hui à la présentation en Conseil des ministres de son projet de loi, dernière étape avant son examen au Parlement. À l'inverse, et si l'on tient compte cette fois-ci du dernier sondage BVA publié ce matin, eh bien le risque de gueule de bois n'est pas à exclure quand la popularité d'Emmanuel Macron apparaît en légère baisse avec 33% d'opinion favorable. Celle d'Édouard Philippe perd 3 points, mais plus encore, le soutien des Français à la mobilisation contre la réforme des retraites reste lui particulièrement élevé. 70% des Français interrogés estiment toujours aujourd'hui que le mouvement de protestation doit se poursuivre. Et d'ailleurs, signe d'une tension sociale toujours vive, les opposants à la réforme ont encore fait monter la pression ces derniers jours en multipliant les actions coup de poing jusqu'à l'organisation donc ce vendredi d'une 7e journée d'action interprofessionnelle dans toute la France et notamment une manifestation à Paris partie il y a un peu plus d'une heure de la place de la République. Anne-Laure Jumet, vous êtes sur place, quelle est l'ambiance Anne-Laure, la mobilisation est-elle au rendez-vous?
Oui, une ambiance bon enfant avec des gens qui échangent dans le cortège, qui dansent, qui chantent. Nous avons rencontré notamment Fabrice, conducteur de RER, venu avec son collègue, avec une petite cagnotte dans les mains. D'ailleurs, des gens lui donnaient régulièrement des billets. Malgré la présentation aujourd'hui du projet de loi, il ne veut pas désarmer. La lutte continue, dit-il.
On a montré à la France qu'il y avait des entreprises qui savaient encore se mobiliser. Il y a beaucoup de gens du privé qui se sont mobilisés. Maintenant, on va pas se mentir, on en est au 50e jour, l'aspect financier est ultra important, ça fait presque 2 mois sans salaire. Maintenant, la grève en est limitée, pour l'instant, on va pas la poursuivre. Le combat, on le continue, il va encore y avoir des assemblées générales où on va voter la suite du mouvement. Voilà, est-ce qu'on va partir sur 1-2 jours par semaine, est-ce qu'on va partir que sur les grèves d'Interpro, 1 heure ou 2 ou 3 heures à prise de service, on sait pas encore.
Voilà, le cortège commence juste à partir, direction Place de la Concorde, avec donc cette idée de toujours peser, faire pression sur le gouvernement pour qu'il retire son texte.
Alors effectivement, au 51e jour de la contestation, les syndicats opposés à la réforme espèrent une mobilisation maximale et ils prévoient même, Anne-Laure, d'ores et déjà, de poursuivre leur mouvement avec une nouvelle journée interprofessionnelle nationale, ce sera mercredi prochain.
Oui, les syndicats ont appelé à plusieurs journées d'action à partir de mercredi prochain avec un temps fort jeudi, jour de lancement de la conférence de financement. Il faut effectivement poursuivre cette lutte, explique le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.
Il faut durer tant que le gouvernement refuse d'écouter. On est quand même face à un mouvement social inédit, historique, disent certains, où il y a de plus en plus ça dure et plus il y a de gens qui soutiennent et qui disent cette réforme elle est incompréhensible et injuste. Donc on a raison d'être mobilisé et par contre c'est le gouvernement qui devrait se poser des questions, le président de la République. Le peuple français, c'est pas des imbéciles.
La CGT qui dira lundi d'ailleurs si elle participe à cette conférence de financement. A noter que la CFE-CGC a décidé de faire une pause après cette journée afin notamment de ne pas trop peser sur l'activité économique.
Merci Anne-Laure Jumet. Alors cette nouvelle journée d'action programmée pour mercredi prochain se tiendra effectivement à la veille d'ouverture de la conférence de financement qui devra permettre aux partenaires sociaux de proposer des mesures à même de garantir l'équilibre financier du système en 2027. Or, la baisse des pensions et la hausse du coût de travail ayant été écartées par l'exécutif, le recours partiel au fonds de réserve des retraites doté de quelque 36 milliards d'euros ou bien encore l'instauration d'un âge pivot personnalisé figure parmi les pistes possibles. Reste que cette marge de manœuvre étroite est aujourd'hui dénoncée par les syndicats contestataires qui y voient rien de plus qu'un jeu de dupes du gouvernement, étant entendu que faute d'entente entre les partenaires sociaux, l'exécutif reprendra aussitôt la main, une méthode éprouvée lors des négociations sur l'assurance chômage. Quoi qu'il en soit, rien ne semble donc en mesure aujourd'hui de faire vaciller l'exécutif qui s'en tient à son calendrier. Sitôt adopté tout à l'heure en Conseil des ministres, les deux projets de loi, l'un organique et l'autre ordinaire, seront transmis à l'Assemblée nationale. Les députés examineront alors ces textes au pas de charge. Audition des ministres la semaine prochaine, examen des amendements à partir du 3 février, débat en séance publique à partir du 17 en vue d'un premier vote début mars, en d'autres termes, juste avant la trêve imposée par les élections municipales. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors en présentant ce matin sa réforme au Conseil des ministres, Emmanuel Macron marque évidemment un point, sans pour autant remporter la bataille, ni échec donc, ni victoire totale, et notamment parce qu'à mi-mandat, le chef de l'État se retrouve désormais à la tête d'une France où non seulement les deux tiers de ses concitoyens ne lui font pas confiance, mais où près d'un Français sur deux juge par ailleurs que les réformes économiques qu'il a engagées ont détérioré la situation du pays.
Agacement, crispation, défiance. Au fil des semaines, la mobilisation contre la réforme des retraites reste élevée, si l'on en croit les dernières enquêtes d'opinion. 7 Français sur 10 estiment que le mouvement de protestation doit se poursuivre, quand plus de 6 Français sur 10 ont une mauvaise opinion du chef de l'État et du Premier ministre. Et c'est pour mettre fin à ces 2 ans et demi de concertation, d'incertitude, voire de flottement, que le gouvernement engage aujourd'hui son acte 2 de la réforme des retraites avec l'adoption du texte en Conseil des ministres et un exécutif en marche pour défendre leur régime universel par points. C'était le message porté ce matin sur France Info par le secrétaire d'État chargé des retraites, Laurent Pietraszewski.
On est dans une construction. Bien sûr que le gouvernement va aller au bout de ce projet. Il n'y a pas de doute. D'abord parce que c'est un engagement du président de la République, un engagement de la majorité présidentielle. Donc nous allons au bout de ce projet, mais nous voulons le faire comme nous le faisons depuis plus de 2 ans dans la concertation.
Et il ne faut faire bloc pour ne pas laisser le soldat Édouard Philippe seul au front, comme ce fut le cas ces dernières semaines, car la bataille parlementaire promet d'être longue et tactique. À gauche comme à droite, l'opposition a prévu de déposer une avalanche d'amendements et de contre-projets pour ralentir la procédure et construire un texte où la question du financement sera débattue dans une conférence des financeurs avec les partenaires sociaux et des représentants de l'État. Alors, si l'on fige un instant la situation, on observe que les syndicats les plus radicaux sont toujours dans la rue. La détermination est intacte. Que les syndicats réformistes ont obtenu un sursis le temps de la négociation sur le financement autour d'un âge d'équilibre. Que les députés vont débattre d'un texte dépourvu de tout chiffrage. Et qu'après publication de la loi, le gouvernement prendra des ordonnances pour assurer l'équilibre financier du système et l'organisation de la future Caisse nationale de retraite universelle. En résumé, la situation reste inconfortable pour tout le monde, rappelons-le, pour un texte qui est la grande réforme du quinquennat.
Merci Pierre Neveu. Et pour continuer donc d'évoquer cette réforme des retraites, invité de la rédaction aujourd'hui, Denis Gravouille, chef opérateur, secrétaire général de la CGT Spectacle. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Hier, plusieurs dizaines de manifestants ont bloqué l'accès au site de la Bibliothèque Nationale de France à Paris. On se souvient que vendredi dernier, c'était le musée du Louvre qui était resté fermé. Aujourd'hui, ce sera la Tour Eiffel. À l'exception de ces actions menées autour donc des grands lieux culturels de la capitale, comment se concrétise depuis 51 jours la mobilisation de la CGT Spectacle? Spectacle.
Déjà, on peut la concrétiser directement à Radio France, où on salue la lutte encore plus longue contre les suppressions de postes, parce que c'est toute la même politique qui est menée. C'est la baisse de la protection sociale, la baisse des services publics, et les moyens de Radio France sont considérablement attaqués par le plan de votre PDG. Donc, aujourd'hui, jour de grève, j'apporte tout le soutien à lutter contre ce plan, parce que c'est le même qu'on a dans d'autres services publics. Et évidemment, ça rejoint la question de la réforme des retraites. Alors, il y a eu beaucoup d'actions. C'est pas facile forcément de faire grève. grève. On a beaucoup parlé de l'opéra, on a un peu parlé de la Comédie française, puisque ce sont deux régimes spéciaux. Mais voilà, les vœux du ministre ont été annulés. C'est pas forcément facile de faire grève pour des salariés, artistes et techniciens intermittents du spectacle. Mais il y a eu beaucoup de spectacles annulés. Et puis, il y a différentes formes d'action. Le ministre de la Culture, comme tout ce gouvernement, est impopulaire. Il n'arrive pas à se présenter devant la profession. Vous avez peut-être entendu parler que à Nantes, au BIS, qui est un grand rendez-vous qui a lieu tous les deux ans, devant 2000 personnes, l'intersyndicale a été applaudi pendant 4 minutes et le ministre n'a pas pu parler sans être sifflé. Donc c'est un vrai problème. Ce gouvernement n'entend rien, n'entend pas que cette réforme est une catastrophe. Dans nos professions, c'est particulièrement le cas. C'est valable pour les deux régimes spéciaux, mais c'est valable pour les intermittents qui sont par nature précaires, pour les auteurs et les autrices aussi. C'est absolument scandaleux. Il y a bientôt Angoulême. Donc il faut qu'ils entendent. Et on a pareil, aucun chiffre. Vous l'avez dit de façon générale, mais ça fait depuis décembre qu'on réclame des simulations précises pour nos professions, pour des gens qui ont par nature des revenus discontinus, par exemple.
Question de Sophie Delpont.
Oui, bonjour Denis Gravouille. Donc vous parliez tout à l'heure de l'Opéra de Paris. La grève continue aujourd'hui. Les danseurs ont refusé la proposition qui était de n'appliquer le nouveau régime qu'aux nouveaux embauchés. Donc ils maintiennent leur combat pour avoir une retraite à 42 ans pour tout le monde. On en est où de ce mouvement-là?
Pour les danseurs, par exemple, faut voir les choses. Le projet de loi, quand on l'a enfin eu, il dit on va appliquer la clause grand-père. Donc ça veut dire que c'est les danseurs qui seront embauchés en 2022 qui vont partir de la réforme. C'est-à-dire ceux qui sont déjà à l'école de danse, ceux qu'ils connaissent déjà, qui dansent déjà avec... Avec les danseurs, ils les connaissent. C'est même pas leurs enfants, c'est ceux qui ont quelques années de moins qu'eux. Donc forcément, cette réforme, comme partout, même si on nous dit qu'elle s'appliquera que à ceux qui sont un peu plus jeunes que nous, c'est juste un scandale. C'est une question de génération. Donc à l'opéra, évidemment, ça fait dur. On nous serine que c'est très lourd pour les finances de l'opéra ou de la Comédie française. Oui, mais c'est pas nous qui avons déclenché le mouvement à cause d'un projet de loi qui est absolument scandaleux et qui fait un coup de canif dans le contrat social de ceux qui ont été embauchés dans ces maisons comme dans tous nos métiers.
À la Comédie française, donc 33 représentations annulées depuis le début de la grève. Ça continue là aussi le mouvement
Bah oui, c'est comme partout, hein, comme à la RATP ou à la SNCF, c'est dur parce que c'est dur une grève longue. D'abord parce que c'est 10 salaires pour la plupart de ceux qui font grève. Donc en plus, perdre un mois de salaire, c'est peut être très long, même s'il y a des façons inventives de faire grève selon les services. Mais la question, elle est que il faut que ce gouvernement entende qu'on ne passe pas en force, quoi. Macron, il a été élu par défaut face au Front National. Il n'a pas été élu pour faire appliquer son programme. Le nombre de gens qui ont voté pour lui au premier tour, il est ridiculement faible. Personne n'a voté pour qu'il applique tout son programme intégralement et encore plus dur que ce qu'il avait annoncé.
Il y a eu donc différents modes d'action ces dernières semaines. Notamment, on a vu des avocats, des professeurs enfiler des tutus danser sur le lac des Cygnes, reprenant cette action qui avait été menée par les danseuses de l'Opéra de Paris. C'est par ce genre d'action maintenant que la mobilisation peut continuer, puisque là, on voit qu'on arrive à un moment un peu d'essoufflement de la grève.
C'est sûr que c'est compliqué, mais du côté du monde de la culture, ça fait partie de la bataille pour exister. Et là, c'est vrai que les actions qui ont été faites par l'Opéra de Paris le 24 et le 31 décembre, elles ont donné la pêche dans une période où on disait ça va être la trêve. Ça a donné particulièrement la pêche et c'est très bien que ce soit décliné. Ça veut dire que, justement, il y a quasiment aucun vœu qui n'ont pu se passer normalement. Et toutes ces actions-là, elles sont, le symbolique est extrêmement important. Elles montrent que c'est eux qui ont perdu la bataille de l'opinion.
Vous disiez donc tout à l'heure, vous rappeliez que Franck Riester, le ministre de la Culture, a annulé ses vœux, il a été hué aussi hier à Nantes, vous le disiez, à la Biennale du spectacle.
Et l'intersyndicale applaudit 4 minutes.
Tout à fait, oui, les vidéos ont circulé sur Internet. Il n'y a aucun dialogue aujourd'hui avec la rue de Valois?
Mais si, il y a un dialogue. Et puis le ministre a dit dans une interview qu'il passait son temps à dialoguer. Oui, on le rencontre. Mais un dialogue, c'est quoi? Moi, je veux bien jouer à la pétanque avec Franck Riester, mais sauf que ce qu'on leur demande, c'est qu'ils nous expliquent les effets de leur réforme, aucun chiffre, et que nous, on leur dise pourquoi on est contre, et qu'ils tiennent compte de notre avis. Des réunions depuis que Macron est arrivé, c'est la méthode, c'est on fait des concertations et le texte qui est sur, quand on a un texte sur la table au début, c'est le même à la fin, à part quelques virgules. Rien ne change. C'est valable sur tous les sujets, hein. Donc, ça s'appelle pas tenir compte de l'avis. C'est pas la peine de nous réunir juste pour dire qu'on a fait tant de réunions.
Dernière question, donc vous parliez tout à l'heure de la situation à Radio France. Hier, donc la PDG Sybille Veil a proposé de suspendre le plan de départ volontaire de 299 postes pour remplacer par une rupture conventionnelle collective, permettant notamment d'éviter un gel des embauches. Donc au 52e jour de grève, vous êtes toujours le seul syndicat appelé à la grève. Pourquoi ?
Là, je vais laisser le syndicat de Radio France, parce que par nature, la CGT, ça se décide pas en haut, ça se décide à la base. Les syndiqués de Radio France et les grévistes de Radio France, hein, qui sont encore plus nombreux, vont décider de savoir ce qu'il faut faire et discuter. Il est temps, après 2 mois, qu'il y ait une nouvelle proposition. Maintenant, je suis pas sûr qu'elle soit formidable, parce que si c'est toujours le même cadre du même plan d'économie sur un service public qui marche très bien, quand on voit les audiences de Radio France, on dit que c'est complètement absurde. Alors, ils nous répondent, oui, mais il vaut mieux restructurer quand ça va bien. Ben, nous, on dit, il ne faut pas restructurer, on a besoin du service public de la radio.
Merci Denis Gravouille, secrétaire général, je le rappelle, de la CGT Spectacle, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Sophie Delpont.
Merci.
Son nom ne vous dit probablement rien, et pourtant voilà 9 mois maintenant que Tuna Altinel, un mathématicien de nationalité turque, enseignante en France, accusé d'avoir participé, c'était il y a un an, à une réunion à Lyon d'une amicale kurde, est retenu en Turquie, emprisonné plusieurs mois durant dans son pays, puis remis en liberté, mais sans son passeport, il n'a jamais pu regagner l'Hexagone et reprendre son poste à l'université Lyon 1. Une illustration de plus, sans doute, des dérives du régime autocratique d'Ankara. Mais surtout, c'est aujourd'hui que Tuna Altinel doit être jugé pour propagande terroriste. D'où la mobilisation à Lyon de ses amis et collègues, comme en témoigne ce reportage signé de notre correspondante Mathilde Imberti.
Catherine Charton est en Turquie aujourd'hui pour assister au procès de son ami et ancien collègue Tuna Altinel. Il est poursuivi pour propagande terroriste. Son tort aux yeux de la Turquie, avoir fait office de traducteur pour un député kurde en exil l'hiver dernier à Lyon.
C'est typiquement un défenseur des libertés par des moyens pacifiques qui, dans ses écrits ou ses actions, effectivement, défend la liberté du peuple du Kurdistan, au moins l'arrêt de la guerre. Donc, à l'heure actuelle, il risque 1 à 5 ans de prison. D'une part, d'autre part, il ne peut pas rejoindre son laboratoire.
Samedi dernier, ses collègues et proches organisaient un rassemblement à Lyon. Eren s'y est joint, lui-même chercheur à l'université française et banni de son pays, la Turquie.
I have lost my job in the university in Turkey because of...
J'ai perdu mon travail à l'université en raison de mon opposition au régime actuel. Mes passeports ont été saisis. Je suis dans le même cas que Tuna Altinel. La Turquie est une prison à ciel ouvert pour les opposants. Lui voudrait revenir en France, mais il en est empêché.
Tuna Altinel, 54 ans, a été arrêté au printemps dernier alors qu'il prenait des congés en Turquie. Libéré après 3 mois mais privé de son passeport, il risque aujourd'hui de nouveau l'emprisonnement.
Jamais autant d'êtres humains n'avaient été placés en quarantaine depuis hier. Ce sont plus de 30 millions de Chinois qui se retrouvent coupés du monde, placés donc en quarantaine face à l'avancée de l'épidémie de coronavirus qui a déjà fait 26 morts et touché plus de 800 personnes selon le dernier bilan communiqué ce matin par Pékin. Quant au nombre de cas suspects en Chine, il dépasse désormais le millier. Pour stopper ou à tout le moins circonscrire donc au plus vite la propagation du virus, eh bien les autorités ont pris des mesures drastiques. Les seules possibilités en réalité pour éviter le pire, c'est le cas avec cette immobilisation donc de dizaines de millions d'habitants, mais aussi l'annulation des festivités du Nouvel An dans la capitale. Enfin, une autre mesure spectaculaire, Pékin a décidé de construire en quelques jours à peine un gigantesque hôpital de campagne. Les précisions de notre correspondante Dominique André.
Dans le bilan qui est donné par les autorités chinoises, le nombre des victimes recensées en dehors de la zone de l'épidémie est suivi de près. 2 personnes sont mortes à plus de 1800 km de Wuhan, l'une dans la province qui entoure Pékin, il s'agit d'un homme de 80 ans, et une deuxième dans le nord-est de la Chine, près de la frontière avec la Russie. Toutes les autres victimes, âgées de 48 à 89 ans, ont succombé au virus à Wuhan ou ses environs et souffraient déjà d'autres pathologies selon la commission de la santé. Un hôpital est en cours de construction en urgence avec 1 millier de lits à Wuhan. Des dizaines d'engins de chantier préparent actuellement le terrain pour ce futur centre hospitalier qui ouvrira le 3 février selon l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. L'hôpital servira exclusivement aux victimes du virus. La fête du Nouvel An lunaire commence aujourd'hui. Des restrictions exceptionnelles sont imposées. Festivités publiques annulées à Pékin, cités interdites et les parties touristiques de la Grande Muraille fermées. La programmation des films qui devaient sortir dans les salles de cinéma pour la nouvelle année du rat est annulée. C'est une mobilisation générale en Chine qui est en cours pour contenir l'épidémie.
Comme chaque année au mois de janvier, le cortège de la Marche pour la Vie, grand-messe des militants américains anti-avortement, remontera aujourd'hui les artères verdoyantes du National Mall, l'avenue monumentale de la capitale, avec en guest star cette année un certain Donald Trump, un événement non seulement historique, puisqu'en 47 ans d'existence, la March for Life n'a jamais accueilli un président en exercice, mais aussi politique. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'au moment même où la manifestation accueillera donc sous les hurrahs le locataire de la Maison Blanche, à quelques centaines de mètres seulement de là, dans l'enceinte du Congrès, les sénateurs poursuivront leur débat dans son procès en destitution, tâche désormais indélébile sur son mandat. Et d'autre part, parce qu'à l'approche du scrutin du 3 novembre, où il briguera un second mandat, Donald Trump, qui depuis son investiture n'aura jamais cherché à élargir son socle électoral, sait qu'il doit jouer serré, tout particulièrement avec les chrétiens évangéliques blancs, lesquels ont voté pour lui à 81% en 2016. Et c'est très précisément la raison pour laquelle le milliardaire républicain, qui il y a 20 ans se disait favorable pourtant à la possibilité de choisir l'avortement, est plus que jamais déterminé à se positionner à présent comme le président le plus pro-life, comprenez, le plus anti-avortement de l'histoire des États-Unis. Donald Trump, toujours lui, a déclaré hier qu'il dévoilerait son plan de paix pour le Proche-Orient d'ici mardi prochain, date de la visite à Washington du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à bord de l'avion Air Force One qui le ramenait depuis la Suisse, où il avait pris part au Forum économique mondial. Le président américain a déjà prédit que la réaction des Palestiniens pourrait être négative dans un premier temps, mais que son projet leur était bénéfique au final, a-t-il assuré. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Élément de réponse avec Omar Waman.
C'est un chantier sur lequel le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, travaille depuis près de 3 ans. Un plan qualifié par le locataire de la Maison Blanche d'accord du siècle, censé mettre fin au conflit israélo-palestinien. Pour l'instant, on ne connaît que le volet économique de ce projet qui prévoit près de 50 milliards d'investissements internationaux sur 10 ans dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, mais également dans les pays arabes de la région. Mais ce plan se heurte à un mur, celui des dirigeants palestiniens qui refusent la médiation américaine après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump. Les Palestiniens tiennent à faire des quartiers est de la ville sainte la capitale de l'État auquel ils aspirent. Cette démarche américaine intervient au moment où Benjamin Netanyahu et Benny Gantz sont engagés dans une course électorale particulièrement serrée à l'approche des élections générales du 2 mars. Ce plan, attendu depuis des années, pourrait avoir des conséquences sur ce scrutin. Donald Trump n'a jamais caché son soutien à Benjamin Netanyahu.
Après avoir perdu un peu de son élan face à la montée des tensions entre Téhéran et Washington, le mouvement de contestation anti-gouvernement en Irak a repris de plus belle ces derniers jours. Pour autant, il pourrait bien être détrôné aujourd'hui par la marche organisée à l'appel du puissant leader chiite Muqtada Sadr. Autoproclamé réformiste après avoir apporté son soutien au mouvement de contestation, ce dernier est aussi un opposant de longue date à la présence américaine en Irak. Et c'est précisément pour demander l'expulsion des troupes américaines que Muqtada Sadr a décidé d'appeler ses partisans à manifester ce vendredi. Reste à savoir si le turbulent leader chiite parviendra à mobiliser au-delà de son propre camp, car si les manifestants anti-pouvoir conspuent, eux aussi les États-Unis, ils ne tiennent pas davantage dans leur cœur l'Iran dont ils rejettent la mainmise sur leur pays. La fragile coalition au pouvoir en Italie se prépare à des élections régionales cruciales dimanche en Émilie-Romagne, des élections dont la Ligue d'extrême droite espère qu'elles déclencheront un séisme politique et permettront à son leader, Matteo Salvini, de revenir au pouvoir. Et pour cause, pour la première fois, les sondages donnent un résultat incertain dans cette place forte de la gauche qui n'a jamais connu une autre couleur politique depuis que les régions existent dans la péninsule. Il faut dire que pour cela, le chef de l'opposition aura mis toutes ses forces dans la bataille avec des thèmes chers à ses électeurs, toujours les mêmes, l'insécurité et l'immigration. Reportage dans la banlieue de Bologne, signé de notre correspondant Bruce de Galzin.
Mirko est le patron du bar Tiffany à Borgo Panigale, dans la banlieue de Bologne. La semaine dernière, Matteo Salvini est venu faire campagne dans son café et cela n'a pas plu à tout le monde.
Depuis que Salvini est passé, il y a moins de clients qui viennent au bar et plein de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Tout cela parce que nous avons accueilli un homme politique de droite.
Mirko ne s'en cache pas, il vote Salvini comme Francesco, un entrepreneur de 50 ans qui a ses habitudes au Tiffany.
C'est pas démocratique, ça devrait pas exister. Ça me fatigue ce mode de pensée à sens unique. Il se trompe, selon moi. Mais c'est dur de changer car ils sont très conservateurs ici et ils n'ont pas compris que la gauche ne fait plus rien. Il suffit de faire un tour le soir, c'est plus possible. Il y a des immigrés partout.
Et c'est aussi le problème pour Maria. Elle a une boutique de parfums à 20 mètres du Tiffany. Il n'y a pas de chômage ici, mais de l'insécurité selon elle à cause des immigrés.
Je n'avais jamais vu quelqu'un faire ses besoins dans la rue, se laver les parties intimes, dans les fontaines. Ça se dégrade ici et ça me dérange.
Si tous veulent y croire, Tiffany, aucun n'ose prédire la victoire de Salvini qui, lui, annonce un 26 janvier historique.
Les présidents de la Commission européenne et du Conseil ont signé ce matin l'accord de Brexit approuvé par le Royaume-Uni. Il doit être envoyé à Londres désormais pour être paraphé par le Premier ministre Boris Johnson, une formalité. Et puis ce sera le Parlement européen qui sera donc la dernière instance à se prononcer. On termine avec un mot de météo. La dernière alerte rouge pour crue a été levée dans l'Aude. Seul département maintenu en vigilance orange, inondation. Les pluies devraient encore persister cet après-midi sur un large quart sud-est. Plus au nord, le long de la frontière belge et la Lorraine, là le ciel sera le plus souvent bien ensoleillé. Partout ailleurs, en revanche, le temps restera maussade et nuageux. Quant aux températures, elles afficheront généralement entre 4 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.